Dans ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme appelé Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Alors l'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et que tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison de David à jamais, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se peut-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Elle en est déjà au sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Asseyez-vous quelques instants. Je serai là samedi prochain après-midi à 15h30, occupation habituelle de l'après-midi, disons, et je vous attends, le Seigneur vous attend aussi, pour l'adoration du Saint-Sacrement de 17h à 18h. Encore une fois, je crois qu'on ne peut pas espérer, je sais que moi aussi du reste, je crois qu'on ne peut pas espérer féconder une œuvre comme une chapelle autrement que par l'adoration du Saint-Sacrement. Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous connaissons tous le rosaire, nous avons pour la plupart d'entre nous un chapelet ou un disonnier en poche, mais l'Église nous demande aujourd'hui de célébrer la solennité de Notre-Dame du Saint-Rosaire, sans doute parce qu'elle estime que nous ne connaissons pas encore suffisamment ce mystère du rosaire, ou ces mystères du rosaire, et qu'il nous faut revenir, il nous faut nous rafraîchir la mémoire, il nous faut raviver la conception que nous nous faisons du rosaire, et il nous faut un regain de pratique du rosaire. La plupart des religions possèdent, vous le savez, leur moulin de prière, comme on l'appelle. L'Église n'a rien inventé en sollicitant des fidèles, en suscitant des fidèles la récitation d'un tel type de prière. Mais lorsque saint Dominique a reçu des mains même de la Vierge Marie ce petit instrument, ce moulin de prière, il prit conscience qu'il y avait là quelque chose de tout à fait nouveau, qui n'était pas comme les autres. Les orientaux, vous le savez sans doute, depuis l'époque des pères de l'Église, depuis les tout premiers siècles, avaient leur moulin de prière propre, c'est ce qu'on appelle la prière de Jésus, c'est une sorte de chapelet, mais sans grosses boules et petites boules, tout est identique, un peu comme un chapelet bouddhique ou comme un chapelet musulman, et on récite sur chaque grain cette prière, « Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. » Mais l'Occident ne connaissait pas ce type de pratique. Il manquait donc quelque chose, et c'est cette faille que la Vierge Marie est venue combler en confiant à saint Dominique le Saint-Rosaire. C'est quelque chose de tout à fait fabuleux que le rosaire. Vous savez d'où vient le nom Rosarium? C'est une guirlande de roses. Vous savez peut-être d'où vient le nom de chapelet? Il s'agit d'un chapeau. C'était ces petits chapeaux, ces petites couronnes qu'on offrait à une dame ou à une demoiselle en son honneur. Voilà donc d'où vient étymologiquement le nom de rosaire et le nom de chapelet. Alors, on trouve dans le chapelet une sorte de compendium de la prière catholique. Je ne vous apprendrai rien aujourd'hui, je pense, mais je veux simplement, à la demande de l'Église, vous rafraîchir la mémoire. On utilise le symbole des apôtres, d'abord le credo, qui est la synthèse de toute notre foi, pour raviver la foi que nous avons dans les mystères que Dieu nous révèle. On utilise le pater, qui est la prière même enseignée par le Seigneur Jésus à ses apôtres, pour raviver notre confiance filiale dans le Père éternel. On utilise la salutation angélique, l'Ave Maria, pour raviver notre amitié et notre déférence à l'égard de la Vierge Marie. Et on utilise le Gloria Patri, qui est la doxologie trinitaire, pour raviver notre conscience de la doxa, c'est-à-dire de la gloire des trois personnes divines. Vous voyez qu'on a donc dans ce très petit instrument, ce très simple instrument, une synthèse fabuleuse, une véritable perle quant à la prière, dont nous n'avons pas toujours conscience lorsque nous tombons dans la récitation mécanique du chapelet. Facilement, nous oublions la beauté et le caractère central de tout ce que nous récitons au gré de ces chapelets. Les 150 Ave Maria, vous savez, ils font le pendant aux 150 psaumes de l'Ancien Testament. Et certains saints ont appelé le rosaire le psautier de la Vierge Marie. C'est très joli comme expression, le psautier de la Vierge Marie. Personne sainte, ou les personnes qui, comme les frères Convert par exemple, n'avaient pas le loisir d'assister à l'office au cœur parce qu'ils étaient au champ pour y effectuer des travaux au bénéfice de l'abbaye, on ne leur demandait pas de réciter les 150 psaumes, parce que d'abord ils ne savaient pas lire, mais on leur demandait en revanche de réciter les 150 Ave Maria dans la journée. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort va très loin. Il nous dit, par une de ses expressions à l'emporte-pièce, que le psautier de la Vierge Marie, c'est-à-dire les 150 Ave du rosaire, sont une manière de méditer plus haute que les 150 psaumes de David. Même oser l'expression, c'est une manière plus noble, c'est une manière plus haute. Pourquoi ? Parce que dans les 150 psaumes de l'Ancien Testament, écrit par David ou attribué à David, on médite sur le mystère du Christ, mais le mystère du Christ qui n'est pas encore advenu. Tout est symbolique dans les 150 psaumes. C'est une préparation. Alors que dans les 150 Ave Maria, par les 150 Ave Maria du Rosaire, on médite sur le Christ qui est déjà advenu. Voyez donc l'éminence du Rosaire. Alors 150, vous voyez que c'est un nombre tout à fait symbolique, emblématique, et la Vierge Marie n'a sans doute pas fait cela au hasard lorsqu'elle a demandé à Saint Dominique la dévotion par les 150 Ave Maria. Alors, je sais qu'il y a un point contesté pontifical Jean Paul II quant au mystère lumineux. On nous dit, c'était pas dans le programme de la Vierge Marie, parce que là, Jean Paul II nous rajoute 50 Ave Maria et des mystères qui ne sont pas sortis des volontés de Notre-Dame. Elle l'aurait fait savoir quand même à Saint-Dominique. Alors, je crois qu'il faut regarder ces mystères lumineux avec bienveillance. Ce sont d'abord des mystères qui couvrent une partie de la vie du Seigneur qui n'était pas couvert par les 150, par les trois chapelets qui existaient déjà, les mystères joyeux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Il manquait quelque chose entre les 30 et 33 ans du Seigneur, entre le début de sa vie publique et le début de son agonie, le début de sa passion. Il y a, d'autre part, de la part de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, une très grande liberté par rapport au chapelet. La Vierge Marie avait demandé qu'on récite les Ave Maria, et lui a truffé les Ave Maria de toutes sortes de petites prières supplémentaires. C'est donc pas scandaleux que de rajouter quelque chose au rosaire. On connaît la foi mariale de Jean-Paul II, la dévotion mariale, que tous, c'est sa devise, et ses armes sont frappées du M de la Vierge Marie. On ne peut pas vraiment dire qu'il n'est pas un fils de Marie. Mais je crois qu'il faut recevoir ces mystères lumineux qu'il propose du reste. Il explique bien aux chrétiens que nul n'est obligé d'ajouter à la récitation du rosaire ces nouveaux mystères. Et je crois qu'il faut regarder ces mystères lumineux, même si vous décidez de ne pas les réciter, ce que je comprends tout à fait, ce que Jean-Paul II admet tout à fait, l'Église avec lui, il faut regarder ces mystères lumineux comme un surcroît d'amour, un surcroît de dévotion à l'égard de la Vierge Marie. C'est quelque chose de plus pour méditer sur la Vierge Marie et pour méditer sur le Seigneur Jésus. Libre à nous d'en faire usage ou pas. Voilà, c'est une petite parenthèse, c'est le nombre 150 qui m'a fait penser à cela, et les trois chapelets du rosaire, auquel on vient joindre, si on le veut, le quatrième chapelet. Mais revenons au fond de cette prière. Si elle s'est répandue si universellement, et si tous les papes ont loué cette manière de prier, c'est parce qu'elle est le moyen par excellence, d'abord de vivre en enfant de la Vierge Marie. Et vivre en enfant de la Vierge Marie, c'est ce que nous demande le Seigneur Jésus. Quand il est sur la croix, la dernière parole qu'il adresse aux hommes, et par la personne de Jean, c'est « Voici ta mère ». Et voici ton fils. Nous devons être des enfants de la Vierge Marie, parce que c'est le vœu ultime du Seigneur Jésus. Je crois que dans la récitation du rosaire, on a plus que ça encore. On n'est pas seulement des enfants de la Vierge Marie, ce serait déjà pas mal que nous soyons vraiment, mais on se coule carrément dans la personnalité de la Vierge Marie, dans la peau de la Vierge Marie. Et ça, c'est extraordinaire. En récitant le rosaire, nous portons sur chacun des mystères de la vie du Christ le regard même amoureux, absolument pur, tout de foi, d'amour et de charité, et d'amour et d'espérance de la Vierge Marie. Ce caractère répétitif qui nous conduit parfois à abandonner les chapelets, nous ne devons pas en avoir peur. Ça doit nous rappeler cette manière de procéder de la Vierge Marie, vous savez, qui gardait ces choses et les retournait dans son cœur. Mais oui, en récitant le chapelet, chaque jour, en patinant les grains, à force de méditer les mêmes mystères, nous agissons exactement de la même manière que la Vierge Marie. Nous revenons sur ces mêmes vérités, sur ces mêmes mystères, et nous les retournons comme la Vierge Marie dans notre cœur. Donc il ne faut pas avoir peur du caractère un peu répétitif, du caractère parfois mécanique du chapelet. C'est la manière d'imiter la Vierge Marie. La Vierge Marie, du reste, ne garde rien pour elle. C'est-à-dire qu'elle a contemplé comme personne les mystères de la vie de son Fils. Mais elle ne garde rien pour elle. Elle nous offre ce même regard sur les mystères. Si nous voulons bien y coopérer, très bêtement, par le truchement de ce petit instrument tout bête, elle nous donne d'entrer dans son propre regard. Je crois que c'est un don tellement grand que nous aurions tort de le négliger. Se passer de ce moyen qu'est le rosaire et ne pas entrer dans la peau de la Vierge Marie, c'est finalement ne pas atteindre au cœur de notre religion, qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. On loupe l'essentiel de la vie du Christ si on n'entre pas par cette porte qu'est le rosaire, que sont les yeux et le cœur de la Vierge Marie. Marie, c'est un peu l'écrin qui contient cette perle qu'est le Seigneur Jésus. De l'Annonciation, c'est-à-dire le moment où le Verbe éternel s'incarne, jusqu'au couronnement de la Vierge Marie, Marie enveloppe son Fils. Marie est toute unie à son Fils et elle nous offre son Fils. Elle le fait à l'Annonciation, elle s'offre pour porter son Fils, elle le fait lors de son couronnement, puisqu'elle nous offre, elle continue à nous offrir, elle qui est la Reine de l'univers, et bien le Roi de l'univers. De Nazareth à Jérusalem et de Jérusalem au ciel, il nous faut passer par Marie. Vous connaissez cette devise de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, à Jésus par Marie. On ne peut pas se passer de cette médiation de la Vierge Marie. Méditer le rosaire, donc, c'est pour nous approcher de Marie et avec elle gravir les marches qui nous conduisent progressivement au ciel. C'est ça également qui se trouve derrière le caractère, encore une fois, mécanique et répétitif. Ben oui, quand on monte un escalier, il y a forcément des moments où c'est un peu lassant, surtout quand l'escalier est un peu long. Et c'est un petit peu répétitif parce que les marches se ressemblent. Et bien lorsque nous récitons le rosaire, soyons certains que nous gravissons ce chemin très sûr, cet escalier qui nous conduit inévitablement, si nous sommes fidèles, au ciel. Nous nous dépossédons de nous-mêmes et nous entrons dans le regard de Marie sur les réalités de la vie du Christ. Pour que la prière du rosaire soit vraiment féconde, là j'en viens aux conditions un peu lointaines de la récitation du chapelet, c'est déjà très bien de réciter le chapelet quotidiennement. L'Église nous y encourage, la Vierge évidemment nous y encourage. C'est très bien. Mais parfois on se plaint, notamment au confessionnal ou ailleurs, on se plaint de ne pas pouvoir rester fidèle au chapelet. On se plaint de ne pas pénétrer les mystères, de ne pas avoir le regard de Marie sur les mystères de la vie du Christ. Mais je crois, mes frères, que nous n'entrerons pas dans un chapelet, dans la récitation fructueuse du chapelet, si nous ne sommes pas, comme la Vierge Marie, dans une vie de silence. C'est-à-dire que Marie, pour pouvoir retourner dans son cœur ses mystères, vous observerez bien qu'elle passait sa vie à se taire. On ne peut pas passer du brouhaha des activités multiples que nous offre la vie, on ne peut pas passer de, vous avez sans doute fait cette expérience, d'un film de 3 heures d'action à la récitation du rosaire. C'est impossible. Eh bien, analogiquement, on ne peut pas passer d'une vie qui serait totalement de droite et de gauche, totalement menée au gré des agitations, à la récitation du rosaire. Si nous voulons être de vrais disciples de la Vierge Marie, il faut prendre l'habitude dans notre vie, dans toute notre vie, de se taire la plupart du temps. Ça n'empêche pas de bonnes discussions, ça n'empêche pas d'être bon vivant, mais on peut, il le faut même, pour réciter fructueusement le rosaire, être des enfants du silence. Voilà. Alors il ne faut pas s'étonner devant ce caractère capital du rosaire, qui est le chemin qui conduit à Marie, et le chemin qui de Marie nous conduit à Jésus. Il ne faut pas s'étonner que le démon s'acharne. Vous savez que dans les années 70, 60, 70, on a commencé à remettre en cause cette prière, qui était une prière de bigote, une prière qui ne servait à rien, disait-on. Et je me souviens du fondateur d'une communauté qui était confesseur de religieuses. Ces religieuses lui confiaient les larmes aux yeux que l'aumônier était arrivé peu de temps avant lui et avait exigé de ces religieuses qu'elles prennent au chapitre tout le chapelet dans la main et tout ensemble dans une sorte de procession diabolique à la suite du bon abbé. Elles sont allées enterrer sur les conseils de l'abbé leur chapelet pour en finir enfin avec ces pratiques d'un autre âge. Mais oui, le démon s'acharne. Le Saint Curé d'Ars disait qu'un Ave Maria faisait trembler l'enfer. On comprend donc que si des bonnes sœurs en batterie se mettent à réciter chaque jour le rosaire, l'enfer a un avenir assez mal assuré. Voyez. Quoique, dans un tout autre ordre, que sans verser dans ces excès, nous avons chacun d'entre nous la difficulté de citer le chapelet. Il faut bien le reconnaître. Eh bien, peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas tant de goûter, ce n'est pas tant la saveur, ce ne sont pas les consolations qui doivent importer, ou notre concentration. Le chapelet sera pour nous un moyen sûr de salut, un moyen sûr de faire triompher vite le cœur de Jésus et le cœur de Marie, si nous sommes fidèles chaque jour. C'est ça qui compte, la fidélité. Qu'est-ce que la récitation d'un chapelet au cours d'une journée? Vous pouvez réciter deux mystères le matin, un mystère à midi, deux mystères le soir, une sorte de médecine douce, et je crois que ce n'est pas au-delà de nos forces. Et les emplois du temps les plus chargés ne nous empêchent pas de réciter ce chapelet. Pour ceux qui le veulent, je sais qu'ici j'ai affaire à des spécialistes, mais pour ceux qui le veulent, je serai tout à fait ravi de proposer l'imposition du scapulaire du Mont-Carmel. Pour ceux qui ne le portent pas encore, ce scapulaire du Mont-Carmel a été proposé par la Vierge Marie à Saint-Simon Stock, qui était un carme, et qui était un carme à peu près contemporain de Saint-Dominique. Il s'agissait d'assurer aux fidèles une vraie dévotion à la Vierge et, en échange, d'un certain nombre d'avantages qu'offrait la Vierge Marie. Mais on ne sombre pas du tout dans un quelconque business, il s'agissait en réalité de vivre une vie chrétienne, c'est tout. Et ce petit moyen du scapulaire qu'on revêt en dessous de ses vêtements permet une plus grande fidélité à la Vierge Marie. C'est un moyen matériel de se rappeler qu'on est consacré à Marie et que chaque jour on veut essayer de lui demeurer fidèle. Alors au début, il s'agissait, à l'époque de Saint-Simon Stock, de réciter le petit office de la Vierge Marie, de porter le scapulaire, de réciter le petit office. Et l'Église, qui est une mère, a vu qu'il était difficile de réciter le petit office, elle a permis de commuer cela en récitation quotidienne du chapelet. Vous voyez que ça rejoint les intuitions de Saint Dominique et les révélations de la Vierge Marie. Alors, ce petit moyen du scapulaire du Mont-Carmel, il existe une cérémonie très simple, par laquelle on reçoit ce scapulaire, on entre de fait dans la famille du Carmel, on bénéficie de tous les fruits spirituels, et ils sont nombreux, du Carmel. Le Saint-Père s'apprête à déclarer docteur un nouveau membre du Carmel, à nouveau un docteur de l'Église du Carmel. Voilà, et c'est un moyen très simple, mais vraiment efficace, de renforcer notre dévotion au chapelet et à la Vierge Marie, et partant à Jésus-Christ. Je pense que nous avons besoin de cela dans un monde qui bouge et avec notre nature très versatile. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.